Bien que mon père ait dit un jour, oh, deux catastrophes naturelles le même jour, le Front populaire est à naissance.
Oui. Où est-ce que vous êtes née, Colette?
En Algérie.
En Algérie?
Oui.
En quelle année?
En Haut-Lisagne, le 22 mars 1948.
À l'hôpital Saint-Antoine, en 30.
On n'allait pas à l'hôpital, maman a accouché dans le logement où on vivait.
Moi, je suis née à Saint-de-la-Forêt,
à côté de Paris.
Le 1er octobre 1925.
Je suis née en Italie. Mais mes parents, ils étaient venus en France parce qu'ils étaient à côté des montagnes et ils mouraient de faim.
1930, 1er janvier.
Alors, ils sont venus en France et c'était pas du chocolat.
C'était un vieux docteur qui a accouché ma mère, sans doute.
Je suis née en 33.
Vous savez, il paraît que je m'étouffais avec une plume, il m'avait ranimé. Vous savez, c'est incroyable autrefois.
En 25.
Il a plu, mais il a tourné dans la bouche. Et ça m'a donné un peu d'air.
27. C'est-à-dire que je vais avoir 90 ans cette année.
Je suis née, moi, à 22. Ça fait un siècle, presque.
1938.
Ouais.
Le 26 septembre.
1938. À Paris, 11e.
Moi, ma mère était prête à accoucher. Et j'étais allé chercher la
salle. Vous avez fait en
Normandie? En Normandie, près d'Ormont.
À l'arrêt?
En quelle année?
Mon épouse aussi. En
1930.
13 septembre 1930.
Je suis né à Champagne-sur-Seine.
Soi-disant que je suis né à Sarlat,
mais
dès que je suis né, on m'a pris. Dans une autre
région.
Paris,
en Bois. En
Nosier. Oui.
24 juin 1924.
Eh puis, bon, je vais regarder quoi. Je ne sais pas, la lune. Et on m'a acheté chez moi, dans la maison que je suis encore.
Moi, je suis né à côté d'Axidaï.
Et j'ai perdu mon père en 40
villages. Oui, oui.
À 2 km.
Ma mère s'est retrouvée ici, avec Simon.
Je suis un enfant tombé du ciel.
Moi, ce qui m'a marqué le plus dans mon enfance, c'est l'arrivée d'électricité. Ça m'a marqué. Quand eux ont venu faire l'installation, puis qu'avec son petit doigt, il voulait tac, appuyer comme ça, puis pouf. J'en ai posé des questions à l'époque. C'était dans les années 30, ça. J'étais tout gamin, mais ça, c'est un truc qui m'a marqué le plus dans la vie, je crois. Un petit test travaillé là-dedans. J'ai dit comment que ça se fait, comment que ça arrive. Et moi, on gratte l'allumette, on mettait du pétrole, tout ça, puis là, rien du tout, on a vu, tac, pouf. C'était fabuleux.
Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas l'eau, et il fallait descendre à une fontaine pour avoir de l'eau fraîche, et on avait un joli ruisseau le long de nos terres. Ce qui servait beaucoup à mes parents pour faire du beau jardinage.
Mais de chez nous, on est descendu jusqu'à la Louire, en bas. Mais la Louire, c'est là. Où prend sa source, l'eau qui passe à Saint-Albert, quoi. Et là, tout le monde allait laver le linge à la sortie de cette source. Les gens portaient leur sel, leur planche à laver, qu'on appelle. Ils emportaient souvent leur linge et le faisaient bouillir sur place. Ils le savonnaient, ils en avaient tout sec comme ça, vous voyez. Ah, c'était pas la même vie qu'aujourd'hui. Hein.
Et tous les jours, mon père, comme apéritif, il avait on appelait ça un cambalou.
Un cambalou.
Bâton, on avait des coches et il y avait deux seaux d'eau. Mais il avait trouvé que les seaux d'eau ne faisaient que 10 litres. Donc avec des bidons de carbure, il avait fait des seaux qui contenaient 20, de chaque côté 20 litres d'eau. Devant 20 litres, c'était son apéritif. Tous les jours, il montait la côte pour donner à boire à ses deux bœufs. Voilà l'histoire.
Ça, je l'ai fait, moi.
Donc, ouais, je te vis. Ouais. Et maintenant
oh. Et voilà. Alors maintenant.
Maintenant, ils vont revenir, ils tiennent beaucoup
plus. Et la douche et tout le fourbi. On avait absolument rien. Ma mère faisait la vaisselle.
Qu'est-ce qu'ils ont inventé pour la femme si c'est le mieux.
Elle gardait l'eau de vaisselle parce qu'il était absolument. On n'avait absolument rien pour mettre dans l'eau de vaisselle. Que de l'eau bouillante. Elle a bouillanté notre vaisselle après repas et elle gardait cette eau pour faire boire ses oies.
En 22, il n'y avait pas de chauffage dans les maisons, il n'y avait pas les cuisinières, il y avait la cheminée. Ah, la cheminée est toujours allumée par contre, avec des grosses souches, des gros morceaux de bois pour le lendemain matin. Ça n'empêche pas que l'eau était glacée dans le seau sur l'évier, hein, et que tous les carreaux étaient pris par la glace aussi. Hein. Alors, alors, pour se laver, faire chauffer dans l'eau. De l'eau dans un marmitou qu'on appelait, au feu de bois, et on se lavait dans une cuvette avec ça.
Par contre, à Paris, on a toujours eu de l'électricité, toujours de l'eau.
Voilà.
Oui. Par contre, quand je venais chez mon grand-père ici, j'étais contente parce que justement, il y avait la bougie, il n'y avait pas d'eau. Alors, pour nous, ça nous changeait la vie, quoi.
Nous, on n'y voyait pas mal parce que c'était des lampes à carbure, je les ai toutes là-bas chez moi.
Nous, pendant la guerre, quand on venait en vacances de Paris à ici, on est chez ma tante ou mon grand-père, on était heureux parce qu'on trouvait qu'on mangeait drôlement bien. Par rapport à Paris,
oui.
Je crois bien qu'on était plus contents de descendre pour manger que le grand-père ou la grand-mère. Oui. Tellement on mangeait bien, puis alors, devant le four, là, enfin, hein, comme il faisait là, devant le feu de bois, il faisait ça comme ça, c'était formidable. Oh, nous, les Parisiens.
Il y avait le feu, des crémaillères, et on faisait du feu, et cette marmite en fonte. On faisait la soupe et on n'en faisait pas pour une fois, quoi. On en faisait pour deux jours.
Hein. Au moins, oui.
Oui. Et puis après, on avait une cocotte sur trois pieds, en fonte aussi. On tirait de la braise et on faisait cuire le reste dans la braise ou dans des poêles, si c'était des pommes de terre. Si c'était... On taillait le pain très fin, très fin. Et après, on trempait la soupe de fèves, et vous savez ce qu'on en faisait après? On la mettait sous l'édredon, dans le lit pour le soir.
Dans la chambre, ça devait être la terre battue, certainement.
Ah oui.
Je le vois, c'était marrant, oui. Il y avait deux lits, j'accouchais dans l'un, mes parents dans l'autre. Je sais que quand ils tuaient le cochon, ils pendaient le cochon dans la chambre. Et quand j'avais peur, je couchais. Alors mon père couchait tout seul et moi je couchais avec ma maman.
Elle a peur des cochons.
Et alors j'allais. Voilà mon autre fille.
C'est ça que j'aime. Ah, ça je
vois. Alors comment ça se passe? D'où vous venez-vous? De Périgueux?
Vézac, hein? Vézac, hein? Vézac, hein?
Pas dans l'ombre.
Pendant la guerre, on allait un jour par semaine à l'école. Toutes les semaines, le mardi, parce que mes parents ils venaient là faire les courses, alors on allait à l'école. Et là, j'ai passé mon certificat d'études ici, et j'avais le moyen d'apprendre. Et bien, apprendre, il fallait de l'argent. Alors, au lieu d'apprendre, on m'a acheté une belle pioche. Il fallait aller garder les vaches, les moutons, dans les bois.
À l'âge de 7 ans, que je suis parti donc à l'école et que je parlais patois tout le temps, couramment tout le temps. Là, madame Don Lamorel, la sévitrice, elle me dit, Jean, il te faut parler français. Pourquoi? Parce qu'ici, on apprend à parler français, mais on ne parle pas patois. Ah bon? Alors j'ai parlé français. Donc, c'est là que je me suis appris à parler français. Je faisais 5 km le matin et 5 km le soir pour rentrer, avec mon petit sac pendu à l'épaule. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? La maman y mettait ce qu'elle pouvait, ce qu'elle avait, du pain, des fois un peu de confiture, alors là c'était la fête. Hein.
Il n'y avait pas de cantine à l'école.
Donc le matin
Le matin, on emportait notre casse-croûte. Et puis on mangeait sur les bancs de l'école ou sur le préau, quand il faisait pas froid. L'hiver, on avait quand même une personne qui faisait la soupe et qui venait nous tremper une soupe. Quand elle faisait les soupes d'haricots, elles étaient bonnes.
Mmh. Mes chaussures étaient bien arrangées le matin quand je partais, mais le soir, quand je revenais, les battes qu'on appelle, qui tiennent le pied dessus, là, à ras du pli du pied, les clous avaient foutu le camp. Il fallait bien s'amuser aussi dans la cour. Et bien voilà.
Je travaillais très bien à l'école. Et les Américains nous avaient offert à l'école une bibliothèque.
Fillette, Lisette.
Je veux, c'était les illustrés.
Moi, je connaissais mon frère.
Ouais, les photos.
Il y avait Mickey, Robinson, Junior, Tarzan,
ah, oui, oh,
Aventure.
Vous avez les Malheurs de Sophie.
Les Malheurs journaux qu'il y avait comme ça. Mmh. Mais c'était les garçons. C'était mes frères qui lisaient ça. Et moi, je lisais aussi. Il y avait déjà des aventures de Zorro.
Mais ce qu'il y avait que je n'aimais pas du tout, c'était le catéchisme. Parce que ça ne vous raconte que des mensonges. Qu'est-ce que Dieu? Vous le savez, vous? Alors après, ma pauvre mère a dit, mais fais pas le catéchisme, comment ça se fait? Elle a été se renseigner. Une bonne femme qui s'appelait Tout le monde, que jamais j'ai pu la piffrer, elle dit, il ferait bien la première communion, mais on ne le voit jamais au catéchisme. Je me suis fait engueuler, tirer les oreilles, gifler, et aller. Oui. Mais c'est pas ce qui m'a fait aller au catéchisme quand même. Hein. Non et non.
Si on pouvait partir le tour de la maison, l'hiver, il y avait les glaces, la glace qui pendait après les rochers, on les cassait et on les suçait.
Il y avait un gros poêle au milieu de l'école, de ces vieux poêles, maintenant c'est vieux. Il y a un poêle rond là, enlevait le couvercle, mettait les bûches dedans et ça chauffait. Et on était bien.
On avait tout, on avait l'électricité, le chauffage, le gaz, on avait tout, aucun problème. Le problème a été quand il y a eu la guerre, bien sûr, là c'était autre chose, mais autrement. Et quand on allait à l'école, si à la sirène sonnait comme quoi il y avait une alerte, et ben les petits allaient dans les caves les plus près et les plus grands dans les caves un peu plus loin parce qu'ils marchaient plus vite. Mais à l'école c'était pareil, on quittait la classe pour aller dans les caves.
C'était en 40 ça alors?
Oui, 40, je suis 44. Oui.
C'est qu'on échangeait les écoles, c'est-à-dire que les écoles à risque de bombardement parce que on était canardés par les Canadiens ou les Américains ou les Allemands, enfin tout le monde tapait sur nous hein, à l'époque, dans cette zone de Normandie qui était une zone privilégiée. Hein. Alors, on changeait les écoles, c'est-à-dire que l'école du Trait, c'était un pays qu'à côté, venait à l'école de Duclair parce que c'était plus sécurisant pour les gamins de jouer à l'école dans la cour, le risque du bombardement.
Et l'école, c'était les garçons et les filles ensemble. Hein. On descendait dans les tranchées pour se mettre à l'abri pour quand ils mitraillaient. Quand ils ont fait sauter le pont de Maison Lafitte, eh ben, c'est les Américains qui l'ont fait. Ils se sont trompés, ils ont visé, au lieu de viser le pont d'Achère, ils ont visé le pont de Maison Lafitte. Et nous, on était en récréation. Et il a fallu aller à l'abri, et croyez-moi que c'était pas rigolo. Hein. Parce qu'on les entendait, les...
Ah ben, Vers-sur-Marne a été bombardé je ne sais combien de fois. Mais bon, ben nous, on était à vol d'oiseau, on était à 2 km de Vers-sur-Marne. Mais on est con quand on est jeune. J'ai même vu des fois... En plein bombardement, m'avancer dans le bombardement pour voir comment ça faisait sur place. Premier coup de sirène, la mère a dit « Bon, bah, vous descendez à la cave. Oui, oui, elle pouvait nous chercher. On était sur la route en allant voir ce qui se passait. » Il y avait un petit pont sur le canal de la Marne. On était sur le pont, puis le bombardement se passait en face. Et on y allait. On était dingues.
Moi, j'ai volé les Allemands, moi. Quand on était occupé, ouais. Mais j'avais repéré une belle propriété où c'était occupé par les Allemands. Puis ils avaient des boîtes de thon. Vous savez, la boîte qui est plus qui est fait comme ça, puis plus large comme ça. Comme un fer à repasser, vous voyez. Une boîte de 5 kilos. J'en ai fauché.
Et les Allemands étaient chez mes parents. Ils avaient eu domicile dans la salle de lavage, comme on l'appelait, hein, lavage. Et c'était là qu'ils avaient mis leur QG, ça s'était fort bien passé entre les parents, parce que les soldats allemands, qui étaient des gens comme vous et moi, ils étaient plutôt sympas vis-à-vis des gens qui étaient comme nous, des gens modestes, sans collaboration, hein, mais... Là encore, on n'a pas souffert tellement de la guerre, sauf le risque du bombardement. Je vous disais qu'on avait fait il y avait un architecte qui était parmi les réfugiés, ce qu'on appelait les réfugiés, c'est les gens de la ville qui étaient venus se mettre à l'abri à la campagne. Et on avait fait des tranchées d'un certain style, pour descendre en cas de bombardement, on descendait dans la tranchée. 2 mètres de profondeur, je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui, et par-dessus on mettait des bourrées, la bourrée, les fagots, puis on recouvrait de terre, si bien qu'un éclat d'obus ne pouvait pas passer à travers. C'était un petit privilège, le fait que les Allemands soient chez nous, ils avaient accepté, parce que c'était pendant qu'ils étaient là, qu'on fasse les tranchées.
À partir de 12 ans, j'ai fait une petite guéguerre à ma manière. Quand j'allais ravitailler l'hôpital Saint-Antoine, je passais par Neuilly. Neuilly, c'est le dépôt des bus qui existe encore, là, de la RACP. Et les Boches étaient emparés de ça, parce que c'est énorme. Et moi, culotté comme j'étais, avec mon petit vélo de merde, et je passais avec les bagages pleins de bouffe, tout ça. Et culotté comme j'étais, je parlais avec les Boches. J'allais carrément sur eux, on parlait un petit peu, puis ils regardaient mon vélo, hop, je remontais sur mon vélo, j'étais content, j'avais passé le truc. Et j'ai toujours passé comme ça, ils m'ont jamais emmerdé. Ils m'ont jamais regardé ce que j'avais dans mes sacoches et tout bordel. Jamais.
Ah oui, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs parce que les Allemands sont venus une journée et on avait un cochon qu'on avait appelé un Göring. Alors, quand les Allemands sont arrivés, j'ai dit à maman, je vais ouvrir à Göring, il faut qu'il voit les Allemands. Tu laisses le cochon là où il est très bien, il avait sa petite piscine, et le jour où il a fallu tuer le cochon, on est monté tout, là, comment dirais-je, l'employé, ma mère et moi, on est monté au dernier étage, pleurer pour ne pas entendre les cris du cochon. Bon.
Regarde-moi.
Il y avait moi. Mais t'as bu, toi? Et aussi Jean-Lettre, nous étions 7. Vous étiez 7. Sous des pochards, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces gars-là?
Ah, c'est une chanson.
Oh, c'est une chanson. Oh, dis-donc, à propos, j'ai une idée. Si j'essayais de faire comme toi, que c'est de chanter dans les cours. C'est une bonne question, hein. Parce que dans la radio, Ragnon, c'était un poste à galène. La poste à galène, c'est une pierre. Et mon père, il tapait dessus avec un petit ressort qui faisait sortir le son. Ah oui, il écoutait... Bourrel, nom, Bourrel, l'inspecteur Bourrel, et puis la femme, c'était Jeanne Sourza.
On avait la radio, oui. Enfin, pas ailleurs, on n'avait pas le droit de l'avoir. Mettez dans le grenier. Sous les soupentes, là, ça veut dire un coin, là, en planquier là. Puis là, quand mon frère voulait avoir des nouvelles, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait pendant l'occupation, alors, personne n'avait le droit de parler. Sinon, ce qu'on fait.
La verte bruyère.
La verte bruyère, ça veut rien dire. D'abord, la bruyère, c'est rouge. C'est sûr. C'est quoi? Sur les verres de bruyère,
ça veut dire quoi? Rémi, ma jolie, ton chapeau est défraîchi par la pluie. T'as rebien le dimanche. Enfin, vous avez trouvé une chance au café.
Tu veux l'embrasser?
Non,
c'est
bon,
c'est bon, monsieur. Oui,
papa a vu une voiture, une Renault, hein, la Renault bleue, je m'en rappelle, ils m'ont emmené. On allait à la Cano. C'était le dimanche, les jours de fête, des fois, en fait.
Et Alexis, on avait aussi une écrevisse. Qu'est-ce que tu vas faire?
Alors, qu'est-ce qui pourrait vous étonner? Si vous imaginez le...
Ben les voitures qui volent.
Ah ouais, voilà. Ouais. Le
retour
dans
le futur.
Des machines.
Ils vont monter dans le temps.
Ouais.
Ça serait bien.
Mais je pense que ça serait interdit quand même, parce que si tout le monde remontait dans le temps...
Ça changerait tout.
On peut pas retrouver tout ce qui se passe là maintenant.
C'est que par exemple, par ordinateur, t'appuies sur un bouton et d'un coup, t'as
un écran.
Mais t'as une vidéo.
Pour un écran.
Non mais Martin.
Mais oui si.
Un écran.
Si.
Il s'y connaît le petit. Ici.
Mais non, mais je te dis juste que c'est pas si vieux.
Donc vous pensez que c'est comparable? Que c'est comparable avec l'arrivée de l'électricité alors?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Non.
Non.
C'est-à-dire pourquoi?
Parce que
c'est pas aussi extraordinaire.
Ils avaient pas des ordinateurs.
Pour nous c'est normal. On a l'habitude.
Pour vous, c'est normal?
Ben oui, nous, avec les consoles de jeux, les ordinateurs, voilà. Les téléphones portables, les tablettes.
Les tablettes.
Qui c'est qui avait des consoles avant?
Ils disaient, ils avaient une plume, un cahier, ils écrivaient. Mais il faut savoir que eux, ils savaient pas que dans les temps d'après, il allait se passer, que tout allait évoluer. Donc pour eux, en fait, c'était leur confort.
Pour nous, c'est rien, mais pour nous, c'est bien.
Mais oui, pour nous, c'est... Pour nous, on ne pourrait pas vivre comme ça, sans électricité. Sans...
Oui, justement, vous avez connu des pannes d'électricité chez vous, là, en ce moment?
Oui. Et alors, comment c'est?
Il fait noir.
on va chercher les bougies.
Les bougies, oui.
Alors, moi, j'en avais une autre, oui. Un monsieur qui n'est pas descendu, mais... La dernière fois, il vous avait demandé, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelles étaient vos matières préférées.
Oui, oui.
Voilà, alors, c'est ce monsieur.
Un Martin.
Donc là, vous lui aviez répondu. Et il aimerait savoir aussi quels sont vos jeux préférés. À quoi vous jouez?
Quel jeu? À l'école ou
en
particulier? En général. Xbox One. Alors, déjà, oui, la Play. Le Molki, la pétanque.
Moi aussi, le Molki.
Il est trop bien.
C'est qui, finlandaise?
Oui.
Alors, explique-moi ce que c'est le Molki.
En fait, il faut.
Il est venu.
T'as 12 skis avec des numéros dessus, jusqu'à 12, de 1 à 12.
12 skis?
Elles sont positionnées en étoile. Vous avez un bâton, il faut les faire tomber.
Non, pas obligé en étoile. Et serré un petit peu. Et au début, il faut les décaniller.
Décaniller avec quoi? Avec un bâton.
Avec un gros bois. On a le droit de faire un rebond, mais les rebonds, normalement...
Normalement, ça compte pas.
Ouais, mais en championnat, ça compte.
Et quand tu touches plusieurs quilles, par exemple, tu touches 4 quilles, tu as 4 points. Alors que si tu touches une seule quille, je touche la quille 9, mais j'ai 9 points.
Oui. Après, pareil, le Molki, le tarot...
Ouais, t'as
raison. Ah oui, là, c'est
ça, c'est assez ancien, par contre.
Oui, j'arrête pas d'y jouer avec mon papier et ma mamie. Le hand spinner et l'ordinateur.
En fait, c'est un point qui est réparti, en fait.
D'accord.
Il y a trois points répartis à des distances égales.
Elle va vous faire une démonstration.
Mais il faut faire des figures. Elle fait des figures.
C'est un tour du monde.
Et c'est pas
le.
Et
alors?
Elle peut voler.
Ah oui, mais alors là, c'est ça.
Après, sur les genoux, c'est facile.
On, oui, nous aussi, on avait des toupies.
C'est le toupie Beyblade.
En fait, on avait un lavabo à l'école. Et donc, on faisait tourner toutes nos toupies dedans.
Powerblade, c'est ça? Powerblade.
Oui. Il y a une toupie qui tombait dans le lavabo. Alors, Playmobil, Xbox 360 jeux de danse, tablette, téléphone, ordinateur.
C'est vrai. Quand on était en séponce, avec le bac à sable de l'école, on faisait des parcours à deux.
Ah oui,
c'est vrai.
Moi, je fais surtout du sport. En fait.
Moi, je fais des expériences scientifiques avec mes billes. La transmission d'énergie.
Mais oui, si vous voyez, si vous les alignez toutes les billes, si vous en jetez une sur la première, et vous allez voir que l'autre, elle va partir. Celle qui est tout au fond, elle va partir. Parce que toutes les billes vont transmettre leur énergie.
Ça veut dire qu'on ne calcule pas ça.
C'est pas mal, hein?
Est-ce que vous avez des responsabilités vis-à-vis de vos frères ou de vos sœurs?
Oui.
Oui.
Bah, comme ma mère, elle travaille le soir jusqu'à 7h, bah, je garde ma petite sœur. Elle a 7 ans.
Non. Bah, j'ai surtout une sœur, en fait, elle met le bazar partout et du coup, je vais ranger tout derrière elle.
C'est embêtant de les suivre.
Sinon, j'ai deux grands frères et une petite sœur.
Alors, il y a ma sœur, elle a 3 ans, et bah, je dois toujours ranger sa chambre, elle met le bazar total.
C'est normal.
Et l'autre, et bah, elle pleure tous les 5 minutes, du coup, je dois aller la voir.
Voilà, parce que moi, j'ai eu des... C'est pour ça que je vous demandais si vous avez le même problème que moi j'ai eu. J'avais 3 frères et sœurs derrière, et il fallait que je me les garde le matin, midi et soir.
Pourquoi c'est pas avec maman ou votre papa qui faisait ça?
Ah, mais maman, elle écoutait la radio, elle se pomponnait, puis moi, donc j'étais la plus grande, ben, il fallait que je fasse tout. Voilà. C'est pour ça que je vous demande ça, si vous faites tout à la maison.
Vous faites pas tout? Vous faites rien en fait. Est-ce que vous pensez que ce sera plus facile, plus difficile que maintenant? Est-ce que vous pensez que... Ouais. Est-ce que vous pensez que ce sera, dans le monde, ce sera plus facile de vivre ou plus difficile de communiquer avec les autres?
Plus difficile parce que, je sais pas, mais ça s'arrête pas en ce moment, il y a énormément d'attentats. Bah, on a vu, on en parlait moins avant, mais à partir de Charlie Hebdo, on en a parlé énormément avant.
Ouais.
Mais simplement parce qu'on en parle partout et j'ai peur que ça nous arrive.
Avec le développement technique, financier, des fois on peut fabriquer des armes à feu. On peut fabriquer des armes à feu plus puissantes. Et c'est ça, les gens ils vont vouloir les acheter. Et après il y a des gens comme Daesh qui font partie de l'état de Daesh, qui vont comme d'habitude vouloir tuer. Et après d'un autre côté, je suis quand même assez confiant. Parce qu'avec tout ce qui est en train de se faire, on est dans une période où il y a pas mal de choses qui se font créer, par exemple les robots, les robots se multiplient de plus en plus.
Ah oui.
Et personnellement, moi, si je voudrais acheter un robot, si on me proposerait d'acheter un robot, je dirais non. Parce qu'un robot, ils vont tout faire pour que tu l'achètes, pour qu'il te fasse tout. Mais s'il fait tout, ça veut dire que tu fais plus rien. Donc on a un corps sans servir.
Conte de fées, Lou Yuan. Enfant, je ne savais pas lire. Ma maman était ma bibliothèque. Je lisais maman. Un jour, le monde serait en paix. L'homme sera capable de voler. Le blé poussera en pleine neige. L'argent ne servira à rien.
L'or servira à faire des tuiles. Le papier monnaie à tapisser les murs. Les pièces à faire des ronds sur l'eau. Je serai un jour le voyageur. Chevauchant une grosse rose venant d'Égypte. Muni d'une pomme dorée et d'une bougie aux cheveux argentés, je traverserai le pays de Kunz pour demander à la main de la princesse de la ville des rayons de Mise. Mais en attendant, dit maman, on doit beaucoup travailler.